Vous êtes sur RTL.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction qui développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine. Aujourd'hui, 4 entretiens. Le général Pierre de Villiers est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. L'armée française a-t-elle les moyens de défendre le pays? Quelle place la France doit prendre dans la guerre en Ukraine? Est-ce que l'on doit craindre un nouveau conflit en Europe? Il répond à toutes mes questions en studio dans Focus Dimanche. Nous avons enfin les 25 joueurs de l'équipe de France qui vont disputer la Coupe du Monde. Benjamin Pavard en fait partie. Le joueur du Bayern Munich va disputer sa deuxième Coupe du Monde. Il est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche sur RTL. Bastien est conducteur sur la ligne 5 du métro parisien. Jeudi, il a participé à cette journée noire sans métro ni RER. Cette grève des opérateurs des transports est-elle légitime? On lui posera cette question dans quelques secondes. Benjamin Lavergne de la Comédie Française est le héros du film Les Engagés. C'est l'histoire vraie d'un homme qui se met hors la loi pour accueillir des migrants en France. Benjamin Lavergne est avec nous en studio sur RTL.
Focus Dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Le général Pierre de Villiers est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. C'est l'ancien chef d'état-major des armées. Il publie Parole d'honneur chez Fayard, un livre pour la jeunesse. Il dit à ses jeunes: j'ai confiance en vous et je suis très fier. Le général Pierre de Villiers est mon invité en studio sur RTL. Bonjour général.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Dans Parole d'honneur, vous dites à cette jeunesse: il est mon devoir de vous dire que vous vivez sur un volcan. Le bon sens a disparu, page 51. Mercredi, le président Emmanuel Macron a évoqué cette jeunesse qui doit se préparer à tout. On peut revivre une guerre sur le sol français, général Pierre de Villiers?
Oui, on est dans une situation où le monde est dangereux, c'est pas nouveau, mais il est surtout beaucoup plus instable. Nous sommes, nous, nos démocraties en difficulté, et nous sommes dans le très court terme. Nous manquons de profondeur de temps. Nos armées ne sont pas préparées pour des engagements de haute intensité, oui, comme ce que l'on observe entre l'Ukraine et la Russie.
Mon général, vous parlez de ces États autocrates qui veulent essayer de s'immiscer dans la politique internationale, de faire de l'ingérence. Vous étiez à l'époque chef d'état-major des armées. On vous parlait déjà au DRN, donc à la direction des renseignements militaires, de l'ingérence de la Turquie, de la Russie, de la Chine, dans notre France, dans notre pays.
Mais bien sûr que cette montée en puissance, elle a été progressive et on le voit... Ce monde multipolaire n'a pas retrouvé son équilibre et cette architecture mondiale, bien sûr que je l'ai vu venir. Et c'est pour ça que moi je parie sur l'avenir et je parie sur la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qui sera confrontée à cette situation. Ce monde est sous tension, sous pression en quelque sorte. Vous rajoutez au terrorisme et aux états-puissances les migrations massives. N'oublions pas que le continent africain aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. En 2050, toutes les prévisions annoncent 2,5 milliards, oui, avec plus de 50% qui auront moins de 25 ans. Donc, ces migrations et bien sûr, ce dont on parle beaucoup en ce moment, à juste raison, le réchauffement, le dérèglement climatique, plus que le réchauffement, autant de facteurs qui déstabilisent le monde aujourd'hui.
Vous dites à la jeunesse, prenez votre destin en main. On a vu le courage de ces jeunes femmes et hommes ukrainiens qui n'ont pas hésité à prendre les armes pour défendre leur pays. On en serait capable?
Eh bien, c'est une vraie question que je me pose tous les jours. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à la jeunesse, mais qu'il faut aussi lui rappeler un certain nombre de vérités. Et dans ce face-à-face que j'ai mis en place dans ce livre, puisque ce sont des lettres, il y a 45 lettres, 45 thèmes, j'essaie de
on
donner...
On y retrouve la confiance, l'humilité.
Exactement. J'essaie de donner à nos jeunes des points d'ancrage, des points de repère: la confiance, l'autorité, la stratégie, le leadership, le courage, l'exemplarité. Autant de thèmes qui me semblent essentiels. Et puis, des qualités indispensables dans les crises que nous vivons, qui sont simultanées. Dans mon livre, en tout cas, j'essaie modestement de contribuer à redonner ce souffle que les jeunes attendent, redonner ce cœur, ces tripes. On leur parle trop à l'intelligence, on leur parle de procédures, de processus, de gains de productivité. Ils attendent qu'on leur parle de raison d'être, de sens, d'engagement.
Oui, de notre drapeau, de notre fierté, de nos valeurs.
Exactement.
Ce qui fait l'idéal français.
Je pense que ce discours qui vise à restaurer une forme de cohésion nationale face à toutes les fractures que nous voyons, fractures sociales, fractures intergénérationnelles, eh bien, c'est le bon discours, c'est celui que je tiens dans mon livre, et je le tiens depuis 5 ans que j'ai démissionné de l'armée française, et je vois le succès auprès des jeunes, toute la jeunesse, bien sûr, les jeunes des cités, les jeunes des zones rurales défavorisées, les diplômés, je suis professeur à Sciences Po, tous les jeunes. Et dans l'armée, nous avons cette grande chance, c'est une chance que nous avons la jeunesse de France dans sa diversité.
C'est ce qui explique sans doute, Général Pierre de Villiers, que vous soyez l'une des personnes les plus appréciées des Français, alors que vous ne parlez pas souvent, que votre parole est rare. Général, écoutez Léo Peria Peigné, il est chercheur au Centre des études de sécurité, il travaille au sein de l'Observatoire des conflits futurs et de la prospective en termes de capacité d'armement, un sujet que vous connaissez très très bien. Il était l'invité d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi dans la matinale d'RTL, c'était mercredi dernier.
Si la France était dans une situation hypothétique similaire à celle de l'Ukraine, ce serait très difficile. Imaginons s'il fallait tenir en munitions d'armes lourdes, je pense qu'en moins d'un mois, et en étant même généreux, on serait mal. Pour vous donner un exemple, oui. à la mi-mars, les Russes avaient perdu plus de 300 chars. En France, on en a 180 qui sont opérationnels.
On serait plus en difficulté que la Russie en cas de conflit, Général Pierre de Villiers ?
Alors, tout dépend de la nature de l'ennemi et du type de conflit. Mais nous avons une belle armée française, la première en Europe, engagée en opération, la deuxième aujourd'hui est derrière les États-Unis pour mener des opérations de guerre. C'est ce que nous faisons depuis une quarantaine d'années sur tous les continents ou presque. Nous n'avons pas une armée qui est préparée pour mener une guerre avec la dureté de la guerre et surtout la durée. Nous n'avons pas l'épaisseur, nous n'avons pas la profondeur en termes de munitions, en termes de pièces de rechange, en termes de logistique, en termes d'effectifs et en termes d'équipement. Et c'est ça qu'il faut restaurer en urgence. Nous n'avons pas de temps pour le faire. Il faut accélérer les procédures, alors qu'aujourd'hui, je trouve que nous perdons un peu de temps.
Vous le dites dans le livre, j'espère que l'on n'aura pas à regretter nos choix budgétaires. Ceux qui vous ont fait quitter l'armée, mon général.
Oui, je crois que les choix stratégiques en France, depuis des dizaines d'années, sont trop faits sur le critère budgétaire et pas suffisamment sur le critère physique de la nécessité des moyens en rapport avec les missions et la menace. C'est cette cohérence qu'il faut rétablir pour la protection de la France et des Français.
Vous étiez général jusqu'en 2017, 20% des effectifs militaires en moins entre 2008 et 2015. Vous en voulez à Bercy ? Qui a supprimé ces postes de l'armée, ou en tout cas qui a fait supprimer ces postes de l'armée, généralement ?
Non, je crois qu'il faut tirer les leçons de ce constat. Il faut toujours rechercher la vision, la stratégie avant la tactique. Il faut que les priorités l'emportent sur les urgences. Ça, c'est la formation qui m'a été donnée dans l'armée. C'est l'expérience que j'ai acquise. Ce ne sont pas les moyens qui commandent, c'est la fin.
Et dans quel état est notre armée ? Aujourd'hui, vous venez de dire qu'on ne résisterait pas à une guerre d'attaque, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, notre armée française, qui était la deuxième armée du monde derrière les États-Unis, elle est toujours la deuxième armée du monde ?
Notre armée est magnifique parce qu'elle repose sur des jeunes exceptionnels. Vous savez, oui. Plus de 50% de nos effectifs militaires ont moins de 30 ans. Ce sont des jeunes. Dans une société qui vieillit, l'armée reste jeune. Et vous vous rendez compte, ils rentrent dans l'armée avec les conséquences qu'ils connaissent, avec au bout du bout, peut-être, la mort à donner ou à recevoir. C'est une responsabilité énorme. Ils l'assument. C'est magnifique, c'est un signe d'espérance. En revanche, ces militaires ne disposent pas de suffisamment de moyens dans tous les domaines, parce que, depuis des décennies, l'armée a été laminée régulièrement par des coupes budgétaires en gestion ou en construction des budgets. Et c'est ce qui m'a amené à partir en 2017, parce que quand d'un côté je voyais l'évolution du monde, ce monde est de plus en plus instable, et que je voyais les moyens qui n'augmentaient pas, je me suis dit que cette incohérence serait grave un jour. Et je connais bien mon histoire. Vous savez, aucun des dirigeants en 14 n'ont voulu la guerre. Aucun des dirigeants en 39, oui. En dépit de cette myopie dont ils ont fait preuve, n'ont voulu la guerre. Et pourtant, la guerre est arrivée.
Oui, vous le dites dans le livre, vous parlez de cette expression, la myopie de ces dirigeants en 39. Vous voyez vraiment l'Europe en 2022 comme l'Europe de 39 ?
Ben, j'espère que ce n'est pas le cas. Attention, 75 ans, un peu plus de paix dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Europe, c'est suffisamment rare pour chercher à la préserver.
Oui, et d'ailleurs, c'est écrit dans le livre « Je suis un homme de paix, mais je ne suis pas un pacifiste ». Vous en voulez à ces personnes qui ont fait des économies sur la paix, qui ont dit des années et des années qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe ?
Je pense que l'art de diriger, c'est l'anticipation, et que aujourd'hui, les dirigeants sont trop dans l'action, dans la conduite du court terme, et pas suffisamment dans l'anticipation, dans la prévision du moyen et du long terme. Un bon dirigeant, c'est quand même sa première responsabilité, c'est dans le brouillard de la paix, de tracer des lignes qui soient des lignes visionnaires.
C'est pour ces moyens que vous avez démissionné en 2017, c'est sur cette question précise. Vous disiez, on ne peut plus travailler. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Vous avez été entendu sur le budget de l'armée qui a été augmenté de 1,7 milliard dans le précédent quinquennat, 3 milliards désormais. Quand vous avez entendu le président Macron mercredi dire qu'il faut se préparer à tout, vous avez des regrets ?
Non, je trouve que...
C'est ce qui a entraîné votre départ en 2017.
Je prends acte des décisions qui ont été prises. 1,7 milliard par an, 3 milliards, c'est ce qui était prévu dans la loi de programmation militaire qui
c'est
est
suffisant.
En cours. Mais je pense que cet effort n'est pas suffisant, considérant le contexte nouveau actuel, avec la possibilité d'un engagement de nos armées en haute intensité, avec des chars, des avions, des frégates, des sous-marins. Il en faudra plus que ce que nous avons. Il faudra faire un gros effort de logistique. On voit bien ce qui est arrivé à l'armée russe, hein, un gros problème de logistique. Et puis, notre modèle d'armée n'est pas aujourd'hui conçu pour faire face à cette situation. C'est cette adaptation que je réclame, évidemment, et puis surtout une accélération du calendrier, parce qu'on ne peut pas mener une préparation à la guerre. Nos procédures sont trop administratives, bureaucratiques. En construisant un modèle d'armée à partir de la menace et pas à partir d'une enveloppe budgétaire.
Vous avez dirigé la deuxième plus belle armée du monde, l'armée française. Vous venez de le dire, 3 milliards dans le budget pour l'armée cette année, dans ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. 100 milliards pour l'armée allemande, pour la Bundeswehr. Alors, en revanche, il faut le signaler, l'armée allemande était dans un état piteux. Et ce n'est pas le cas de l'armée française. Mais ce différentiel entre les 3 milliards et les 100 milliards de l'armée allemande, c'est impressionnant, général.
Oui, je crois que ça fait réfléchir. Il y a aujourd'hui dans le monde un réarmement massif.
Oui.
Ma crainte, c'est qu'on ne reconstitue pas un modèle d'armée suffisamment robuste en quelques mois. Et il y a urgence. Moi, je voudrais donner à cette jeunesse les atouts nécessaires pour faire face à cette situation. Et je voudrais leur laisser un héritage qui soit à la hauteur de la situation qu'ils vont connaître. « Donne-moi les moyens et je resplendirai », c'était la devise de mon premier régiment, 2e régiment de dragons à Haguenau, quand j'ai commencé comme lieutenant.
Il y a 5 ans, vous avez quitté l'armée française après un conflit avec le président Emmanuel Macron. Vous avez tenu des propos légitimes sur la situation de l'armée française. Ces propos ont pu paraître déloyaux pour certains dirigeants. Est-ce que vous regrettez ?
La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. J'ai toujours été guidé par cette phrase. Je n'en regrette absolument pas. Peut-être d'ailleurs que ça a donné lieu ensuite à une prise de conscience de la situation. Et encore une fois, je prends acte du redressement à la fois financier et physique qui a résulté du premier quinquennat du président Macron. Moi, vous savez, au-dessus de moi, il y a la France. Et je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme de responsabilité. Je ne peux pas écrire une lettre sur le pardon dans mon livre. Une lettre complète, le pardon donné, le pardon reçu, et continuer à rentrer dans ce jeu de polémique avec quiconque. Au-dessus de moi, il y a la France.
C'est une phrase forte, au-dessus de moi, il y a la France. C'est une phrase qui a pu donner des idées. Les Français vous apprécient, général Pierre de Villiers. Il y a quelques mois, on vous donnait même comme candidat potentiel pour l'élection présidentielle en 2022. Ça vous a traversé l'esprit ?
Non, j'ai toujours dit que ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma volonté de faire de la politique. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui s'engagent dans la politique, mais ce ne sont pas mes qualités naturelles, ce ne sont pas mes talents. Je suis aujourd'hui engagé dans une transmission de ce que j'ai appris, de mon expérience. Je n'ai pas d'ambition politique, je ne ferai pas de politique. Heureusement que l'on peut servir son pays, servir le bien commun, servir les autres, pas uniquement par la politique. Je rencontre plein de Français remarquables. Le génie français, j'y crois. Je crois dans notre pays, je crois dans cette jeunesse de France. Elle est partout et pas simplement dans la politique.
Vous parlez aussi de sport, dans Parole d'honneur des valeurs du sport. Vous ferez quoi le 22 novembre à 20h, mon général ?
Alors j'ai fait une lettre spécialement sur le sport, parce que je considère que l'activité physique, le sport, dans notre éducation nationale, n'est pas suffisant. Et la pédagogie du sport, l'effort individuel, le dépassement et le sens de la fraternité, de l'esprit collectif, l'esprit d'équipe, je l'ai appris par le sport, notamment par le football.
Et on partage une passion commune.
Nous partageons la passion du football, évidemment, c'est ce qui nous réunit. Évidemment, j'ai regardé la Coupe du Monde, je suis un supporter invétéré de l'équipe de France. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas tant de moments d'unité que ça. La Coupe du Monde en fait partie, l'unité nationale. Moi, je suis un homme d'unité, je crois que le football est un des rares moments qui rassemble autant les Français.
Vous refusez d'ailleurs le boycott de cette Coupe du Monde. Vous expliquez qu'il fallait faire ce choix de ne pas donner la Coupe du Monde au Qatar il y a plusieurs années et pas aujourd'hui, à quelques jours de cette compétition.
Je comprends parfaitement tous ceux et celles qui sont choqués par ce choix. Mais c'est quand il a été fait qu'il fallait s'offusquer. Aujourd'hui, la Coupe du Monde va avoir lieu. Je la suivrai, je supporterai l'équipe de France, encore une fois, parce que c'est ma passion, que j'ai beaucoup d'admiration pour Didier Deschamps, qui est un vrai chef, qui a cet esprit d'équipe qui m'est cher. Depuis 50 ans, aucune équipe n'a gagné deux fois de suite. Ouais. Pourquoi pas ? Moi, je soutiens les joueurs de l'équipe de France.
Le général Pierre Devilliers est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche sur RTL. Il publie Parole d'honneur chez Fayard, une lettre d'espoir pour les jeunes. Vous restez avec nous, général ? Dans quelques secondes, vous allez échanger avec Léa Moukanas, la plus jeune créatrice d'une association en France. C'est dans quelques secondes sur RTL.
Avec plaisir.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Le général Pierre Devilliers est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. Il publie chez Fayard Parole d'honneur, une lettre d'espoir et d'amour pour cette jeunesse. Et on a souhaité créer un échange, organiser une rencontre entre la jeunesse et le général Pierre Devilliers. La jeunesse qui est représentée aujourd'hui par Léa Moukanas, qui a fondé l'association AIDA. Bonjour Léa.
Bonjour.
Léa, vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
Mon général, vous avez quel âge ?
J'ai 66 ans.
Ah ouais, ça crée un bel échange là.
Formidable.
Parlez-nous Léa de cette association AIDA. C'est quoi l'association AIDA ?
Alors AIDA, c'est une association qu'on a créée il y a 7 ans. On était en seconde, on avait 15 ans, pour accompagner les jeunes qui sont touchés par un cancer grâce à l'engagement d'autres jeunes de leur âge qu'on forme à intervenir en milieu hospitalier auprès d'autres patients.
80 000 bénévoles, c'est ça ?
On a 80 000 jeunes qu'on engage en France aujourd'hui dans une cinquantaine de structures hospitalières.
Et vous accompagnez des jeunes et des personnes qui sont vraiment en difficulté, qui parfois ne voient plus le bout du tunnel, qui ne voient plus de lueur d'espoir. Et vous leur donnez des moments d'évasion.
C'est ça. On accompagne des jeunes, donc des adolescents et des jeunes adultes qui sont hospitalisés, qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas des adultes, qui sont vraiment dans cette tranche d'âge de transition où on se construit, où on s'ouvre au monde, où on s'émancipe de ses parents et où la maladie arrive à ce moment-là et coupe un peu tous ces processus d'autonomisation. Donc on est là pour accompagner ça et faire en sorte que finalement, un jeune avant d'être malade, ça reste un jeune.
Léa Moukanas, vous publiez « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » chez Robert Laffont. Vous accompagnez combien de personnes au quotidien ?
On accompagne 2200 jeunes chaque année.
Mon général, quand on voit le parcours de Léa Moukanas, vous l'expliquez dans ce livre Parole d'honneur chez Fayard, vous craignez pour la jeunesse, mais elle est remplie d'espoir. Vous dites que la population française est forte et que sa jeunesse est belle. Quand on voit Léa, on est clairement dans cette explication de ce propos.
Mais oui, Léa est une illustration de mon propos. Cette volonté d'engagement, cette soif d'être utile au service des autres. C'est exactement la démarche qu'explique Léa. Et à l'âge de 15 ans, vous vous rendez compte, c'est fantastique. Donc moi, j'y vois un signe d'espérance. Parce que l'avenir de la France, c'est cette génération. Oui. Je la vois, cette génération différente des générations précédentes, avec cette grande qualité de vouloir s'engager au service des autres. Et c'est exactement ce que vous avez fait dans cette aventure magnifique pour les gens qui souffrent. J'étais très sensible, moi, dans mes responsabilités, mes 10 dernières années, aux blessés des armées. J'allais régulièrement les visiter. C'était toujours pour moi une source d'encouragement dans mon action. Et quand on voit la souffrance d'un jeune de 20 ans, on relativise tous ses problèmes. Vous savez, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La vraie richesse est chez les autres, en particulier les souffrants, les plus petits, les plus fragiles. C'est ce qui vous anime et c'est magnifique. Imaginez une société où il y ait énormément de Léa, ouais. Énormément de Léa qui s'engage au service des autres. Ça serait tellement plus agréable que cette société violente, parfois égocentrique que nous côtoyons. Ouais. Moi, je crois que c'est l'avenir.
J'aimerais bien recevoir une lettre d'amour et des mots aussi beaux de la part d'un chef d'état-major des armées, d'un général comme ça, Léa Moukanas.
Merci pour vos mots. Je pense que vous avez dit les mots clés, la notion de service. On a énormément de jeunes qui s'engagent avec AIDA, qui sont dans des situations très différentes. On a des jeunes qui ont grandi dans des grandes villes, d'autres qui ont grandi dans des banlieues, d'autres qui ont grandi dans des milieux ruraux, et qui arrivent en disant moi, j'ai envie d'être utile. J'ai envie de m'engager avec vous. J'ai envie de donner un peu de sens à mon quotidien. J'ai envie de montrer que je suis pas que des mauvaises notes à l'école ou que je suis pas que une situation familiale qui peut être compliquée. Et j'ai envie de vraiment donner un sens et de montrer qu'on peut avoir de l'impact et un engagement concret même à cet âge-là.
J'insiste sur cette question avant de la poser au général Pierre de Villiers. Les jeunes, ils vous demandent comment aujourd'hui s'engager. On n'arrive pas à s'engager, on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, ils ont ces questions, ces réflexions.
Tout à fait. Nous, on a créé AIDA il y a 7 ans parce qu'on a essayé de s'engager ailleurs et qu'on nous a dit vous avez moins de 18 ans, donc vous reviendrez quand vous aurez passé votre bac et si la santé ça vous plaît, vous ferez médecine. Donc ça nous avait énormément marqué et on avait trouvé ça injuste et donc on a créé AIDA à ce moment-là.
Mon général, l'explication d'AIDA, elle est très claire. Est-ce qu'on parle à cette jeunesse? Est-ce qu'on sait lui parler à cette jeunesse? Parce qu'on la critique très souvent.
Elle est injustement critiquée. Et moi, je crois que cette jeunesse a des caractéristiques magnifiques. Et tous ces jeunes, je suis allé regarder ce que vous faites. Vous avez compris l'essentiel. Et ces jeunes que j'ai vus témoigner, et ils sont rayonnants de bonheur. Parce que, finalement, ils ont découvert qu'ils pouvaient être utiles au service des autres. Dans l'armée, c'est exactement ça. Il ne faut pas croire qu'on emmène des jeunes se faire tuer comme ça, parfois, à l'autre bout du monde. Ils réfléchissent. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils y vont? Ce n'est pas pour une organisation administrative, c'est pour un drapeau, c'est pour des valeurs, c'est pour une grande cause, la paix,
l'amour des autres. Vous, vous dites, ce n'était pas mieux avant. Vous le dites, ce n'était pas mieux avant.
Non.
Ce sera mieux demain.
Non. Je suis pas un homme du passé, je suis un homme de tradition. Oui. Je pense qu'il faut savoir avoir des racines profondes. On respecte tous ceux qui se sont battus pour nous donner cette magnifique situation de paix et de liberté que nous connaissons. Mais on est tourné essentiellement vers l'avenir. C'est ce que fait Léa.
Oui, Léa, on a des conflits aujourd'hui, intergénérationnels.
Moi, je crois à cette intergénérationnalité et je crois que mes grands-parents m'ont transmis ces valeurs d'engagement, mes racines, qui ont permis de construire la suite. Moi, quand j'ai commencé à m'engager il y a 7 ans, j'étais super timide. J'osais pas réciter ma poésie face à la classe parce que je trouvais ça horrible qu'on me regarde. Et l'engagement, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, ça m'a permis d'entreprendre aussi, de construire un projet. Et c'est un formidable vecteur pour la jeunesse.
Général, vous dites à nos concitoyens et concitoyennes, n'ayez pas peur de cette jeunesse, parlez-lui.
Il faut l'aimer et il faut la guider. Ça veut dire qu'il faut cet équilibre entre une vraie fermeté, parce que c'est pas vrai, on ne découvre pas la vie tout seul, il faut qu'on soit guidé. Cet équilibre nécessite du courage, parce que ce n'est pas facile, mais s'il y a trop de fermeté, on n'a pas d'estime, on se sent mal aimé. S'il y a trop de laxisme, eh bien, c'est la chienlit et il n'y a plus d'harmonie possible. Je suis vraiment heureux de souligner cette action magnifique de Léa, parce que vous illustrez mon propos dans le livre. Moi, je crois dans la jeunesse. Merci. Je crois que la jeunesse a besoin de paroles d'honneur, de paroles d'expérience et de paroles d'espérance, tout simplement.
On a besoin de Léa Moukanas dans nos vies, de plein de petites Léa, de plein de petits jeunes qui font des grandes choses. Merci à vous. Léa Moukanas, votre livre « Je veux être utile », c'est chez Robert Laffont. Et oui, c'est un livre d'engagement. C'est aussi une lettre d'amour pour la jeunesse. Une lettre d'amour parallèle à celle du général Pierre de Villiers. J'ai été très fier et très honoré de vous recevoir aujourd'hui, mon général. Votre parole est rare. Merci d'avoir passé une partie de votre dimanche avec nous.
Merci.
Passez un excellent dimanche.
Merci à vous et bravo pour organiser ce type de rencontre. Je trouve ça fabuleux parce que mon objectif, ma nouvelle mission, c'est transmettre. Et aujourd'hui, finalement, la transmission, ouais, c'est un échange, c'est un vrai échange.
Les Franciliens ont connu un jeudi noir dans les transports. Bastien est conducteur de métro sur la ligne 5. Il a fait grève, il nous explique pourquoi. Et ne ratez pas dans quelques minutes Benjamin Pavard, le joueur de l'équipe de France qui va disputer sa deuxième Coupe du Monde dans une semaine. Il est mon invité dans Focus Dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est une journée noire que les Franciliens ont connue jeudi dernier. 7 lignes de métro fermées, les 7 autres ne fonctionnant qu'aux heures de pointe sur les RER, un train sur 3, une RATP en pleine crise à quelques jours de l'arrivée officielle de son futur président, directeur général Jean Castex, l'ancien Premier ministre. Bastien Berthier est conducteur sur la ligne 5. Il est mon invité dans Focus Dimanche sur RTL. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Bastien, vous êtes syndicaliste chez Force Ouvrière, oui, le syndicat majoritaire chez les opérateurs de la RATP. Jeudi, c'était le moment de dire stop pour vous et vos collègues de la RATP, mais pourquoi vous êtes en colère ?
On est en colère pour plusieurs raisons. La première, les sous-effectifs, la dégradation de conditions de travail et les salaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à la RATP, nos salaires n'ont pas été revus à la hausse, nos crises salariales, depuis 12 ans maintenant. Si on veut des salariés, il faut aussi avoir des métiers attractifs, et c'est plus le cas à la RATP.
Alors là, vous dites que les salaires n'ont pas été augmentés depuis 12 ans. La RATP explique avoir augmenté cette année les salaires de 5,2%, et même votre syndicat, ceux que vous représentez, explique que ce chiffre n'est pas de 5,2%, mais 2,6%. Alors, dans une année d'inflation, même s'il y a beaucoup d'inflation, c'est vrai que ça permet aussi de relativiser un poil.
On va remettre dans le contexte, on a eu 2,2% d'augmentation au 1er juillet. Il faut savoir qu'on est là une entreprise qui a le moins pris. Par Air France, elle a pris 5% par exemple. Donc quand la RATP a donc 5%, nous aujourd'hui sur nos fiches de paye, on ne les a jamais pris.
C'est-à-dire que vous êtes à combien d'augmentation environ ?
On a pris 2,2%, c'est-à-dire sur un salaire à 2000 euros, on a pris 44 euros brut au mois de juillet.
Aujourd'hui, vous avez également dans le collimateur des discussions sur les modalités du droit de grève. Vous avez peur d'être désarmé face à la future réforme des retraites. Le gouvernement a annoncé son intention de supprimer plusieurs régimes spéciaux, notamment le vôtre, qui est très protecteur envers les agents de la RATP. Ça aussi, ça vous met en colère ?
Aujourd'hui, très protecteur. En tout cas, la RATP n'arrive pas à recruter. Donc ouais, si vraiment on était des privilégiés comme on a été dépeints durant des années, je pense que la RATP aujourd'hui, elle dépenserait pas des millions dans les affiches publicitaires ou de la communication pour recruter des agents.
Comment vous l'expliquez ce problème de recrutement chez la RATP ?
L'attractivité du métier. Aujourd'hui, on a des contraintes. Voilà, on travaille 4 week-ends sur 6, les jours fériés. On n'est pas là pour Noël, on n'est pas là pour les anniversaires des enfants. On respire une pollution de l'air qui est 2 à 3 fois plus supérieure que celle de l'extérieur. Ça, personne n'en parle. On a alerté les pouvoirs publics là-dessus. Pareil, il y a des années, tout le monde dort. Nous, on demande la légifération aujourd'hui de la pollution de l'air dans le métro.
Aujourd'hui, un conducteur de métro, il part à quel âge à la retraite ?
Aujourd'hui, on est sur du 55 ans, en moyenne.
Donc environ 7 à 8 ans de moins que la plupart des Français.
Bien sûr.
Au minimum.
Mais aujourd'hui, quand on a signé un contrat, moi j'ai signé un contrat il y a 20 ans.
Ouais.
Il y a 20 ans, c'était 50 ans. Aujourd'hui, c'est 55 ans à peu près. Mais d'ici là, avec les réformes, aujourd'hui, mon contrat n'a jamais été respecté.
Et pour bien comprendre, pour que les auditeurs de Focus Dimanche sur RTL puissent comprendre le fonctionnement, la journée de travail d'un conducteur de la RATP, vous travaillez de quelle heure à quelle heure ? À quelle heure vous prenez votre service ? À quelle heure vous le terminez ?
Le métro, il ouvre à 5h15 et ferme à 1h30. Donc aujourd'hui, un conducteur qui commence à 5h15, comme ce matin, il va se lever à 3h30, 4h.
Et il va finir à quelle heure ?
Il va finir à midi.
On parle du droit de grève aussi. Il y a quelque chose qui est arrivé chez vos collègues. 5 ans de grève pour 50 salariés.
On parle d'une minorité. On est 45 000.
C'est vrai, mais c'est vrai. 45 000.
On parle même pas de 1% des agents. Donc aujourd'hui, si.
Est-ce que vous pensez que ça peut jouer aussi sur l'image que les conducteurs de la RATP peuvent avoir ? 50 salariés qui sont dans un droit de grève depuis 5 ans.
Mais aujourd'hui, il faut savoir que ces 50 salariés-là que je ne connais pas, ils sont négatifs. Ils doivent comme de l'argent à leur mutuelle. On les paye pas pour faire grève. Donc après, c'est leur choix personnel, ils ont sûrement leur raison. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a un droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Nous, on n'est pas là pour juger ces 50 personnes qui aujourd'hui usent de leur droit de grève.
Il y a d'autres dérives qui ont été constatées aussi dans l'entreprise ces dernières semaines. En tout cas, c'est ce qu'expliquent certains dirigeants de la RATP. C'est des arrêts de travail frauduleux qui ont conduit à plusieurs dizaines de licenciements, des grèves perlées de 59 minutes qui perturbent le trafic ou encore le phénomène de personnes fragiles, plusieurs centaines de salariés depuis la fin du Covid. Tout ça, vous l'expliquez comment, Bastien ?
On va prendre point par point. Aujourd'hui, les personnes fragiles, c'est un décret de loi, c'est pas nous qui l'écrivons, c'est l'État jusqu'à fin janvier 2023. Je pense que je suis pas médecin, donc un médecin qui dit qu'une personne est fragile et ne peut pas travailler, il doit être en isolement, je pense qu'il n'y a pas qu'à la RATP, la loi elle est pour tout le monde. Donc déjà pour ces gens-là, j'ai envie de vous dire, les médecins sont là pour eux. On parle de grève à 59 minutes à prise. C'est un droit de grève. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol dans l'entreprise, que ça soit à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'entreprise recrute des cadres, agents de maîtrise sans problème. Donc aujourd'hui, même les encadrants, la ligne 1 qui passe devant chez vous, il n'y en a jamais eu autant d'encadrants grévistes aujourd'hui sur la ligne 1.
Il y a la grande nouveauté aussi qui vous inquiète, c'est l'ouverture de la concurrence. À partir du 1er janvier 2025, en banlieue parisienne, il y aura d'autres bus que la RATP. Pourquoi ça vous met en colère ?
Ça nous met en colère parce qu'au final, on tire vers le bas. Aujourd'hui, on va retirer des congés, on va faire travailler plus nos collègues pour gagner moins. C'est ça la réalité. L'ouverture de la concurrence, aujourd'hui, on la paye. Pourquoi il manque plus de 1000 machinistes aujourd'hui à la RATP ? Pourquoi dans tous les transports en Île-de-France, il manque des salariés ? C'est le marché de la concurrence.
Là, je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a 25% de conducteurs de bus qui manquent ou d'offres qui sont non réalisées. Soit un bus sur 4 dans la région parisienne. Il y a une prime de 450 euros qui a été proposée par la RATP aux chauffeurs assidus. Une prime qui a agacé certains syndicalistes. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Mais
peut-être que cette offre de la concurrence peut aussi remplir ce manque aujourd'hui.
La preuve que non, puisque Transdev à Saclay, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est partout pareil. Le manque de chauffeurs de bus en Île-de-France, il est partout, que ce soit Transdev, Veolia, Keolis, RATP, RATP Dev, c'est tout le monde. Aujourd'hui, les métiers n'attirent plus du transport.
Pourquoi ?
Parce que les salaires n'augmentent pas. Aujourd'hui, la contrainte de se lever à 3h du matin, de travailler les week-ends, les jours fériés, elle est toujours là. Mais les salaires n'augmentent pas. Et l'inflation aujourd'hui, on est à 17% sur l'énergie, 10% sur l'alimentaire, et nos salaires, ils ont pris 2%.
Et ce problème qu'on voit chaque jour pour les usagers de la RATP qui vivent l'enfer, des lignes de métro qui tournent au ralenti, 10% de métro en moins sur 4 lignes, ça monte à 15% sur la ligne 4 et la ligne 13. J'ai pris la ligne 13 pendant 20 ans, c'est l'enfer encore aujourd'hui. Comment vous expliquez que la RATP, que notre métro parisien qui était réputé dans le monde entier, fait honte ? On peut le dire, on voit des... À 16h, à 15h, ce ne sont même pas des heures de pointe. On voit des quais qui sont bondés, des gens qui sont entassés, des gens qui laissent passer des métros. 26% de bus en moins en octobre pour les franciliens. Aujourd'hui, on a presque honte du service proposé quand on est français.
Nous, on a interpellé Mme Pécresse, qui est quand même l'autorité organisatrice. C'est elle qui aujourd'hui paye la RATP. C'est elle qui a décidé, à la sortie du Covid, de payer moins la RATP pour avoir moins de services. Donc aujourd'hui, on paye. On paye juste l'offre qui est proposée. Demain, si Mme Pécresse elle rehausse son offre et qu'elle paye plus, elle aura plus de métro, elle aura plus de bus.
Ça veut dire que vous dites aujourd'hui, dans Focus Dimanche sur RTL, c'est un problème uniquement de salaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on nous donne 5%, 4% de plus, on retrouvera l'envie d'aller travailler, on retrouvera l'envie peut-être de faire venir d'autres salariés.
Mais l'envie de travailler, les collègues, ils l'ont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des métros qui roulent. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les effectifs. Aujourd'hui, l'augmentation, tout est lié en fait. L'augmentation des salaires permettra de recruter des gens qui voudront venir travailler à la RATP. Aujourd'hui, c'est le vrai problème aujourd'hui à la RATP, c'est de recruter des agents. Dans tous les secteurs, il manque du monde. Aujourd'hui, si les métros sont bondés et qu'on n'assure pas l'offre, c'est parce qu'il manque des conducteurs. C'est pas parce qu'ils sont malades, hein. C'est parce qu'il n'y en a pas.
Et quand vous entendez aussi ces usagers qui prennent le métro, qui expliquent aujourd'hui que les salariés de la RATP ne remplissent pas leur fonction, que on est pris en otage par la RATP, j'imagine que ça doit provoquer un sentiment douloureux
déjà,
chez vous.
Une prise d'otage, déjà, nous, ça nous touche parce qu'au final, je pense que les gens qui ont vécu des vraies prises d'otage, je pense qu'on les a pas prévenus. Nous, aujourd'hui, la grève qu'on a faite, donc le 10, on a prévenu la RATP plus d'un mois à l'avance.
Vous avez écrit à Valérie Pécresse ?
Oui.
Vous lui avez dit quoi ?
On lui a écrit le 6 octobre pour lui expliquer que l'offre aujourd'hui, elle n'était pas digne de ce nom et qu'il fallait revenir à une offre plein trafic. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui trinquent, c'est les salariés de la RATP et les usagers. Oui. Madame Pécresse, ça ne prend pas le métro ni le bus. Donc je pense que c'est quoi aujourd'hui de prendre le métro à Paris ?
Vous exigez quoi de ces discussions ?
Une augmentation significative des grilles de salaire, de l'embauche et le respect de nos conditions de travail.
Il y a aussi un élément que je voulais évoquer avec vous ce midi, c'est la sécurité. Des conducteurs, des chauffeurs. On sait que les agressions sur les chauffeurs de bus explosent. Ça commence même à arriver dans le métro, bien avec sûr, les conducteurs de la RATP, quand les portes se ferment trop vite, par exemple. C'est aussi l'un des motifs qui explique que certains futurs salariés ne veulent plus rejoindre la RATP.
Bien sûr, qui va venir travailler pour 1 600 € et se faire insulter et cracher dessus ? C'est ça la réalité aujourd'hui. Les usagers sont à bout, à cran, et c'est qui prend, c'est le pauvre conducteur.
C'est-à-dire que vous l'avez vécu, vous?
Moi, je l'ai vécu, bien sûr. J'ai vécu à certains moments de ma carrière de machiniste où des jeunes ne voulaient pas descendre du bus et il fallait que je les emmène absolument à un point où je ne devais pas aller.
Et vous faites comment dans ce moment-là?
On doit dialoguer avec eux, leur expliquer qu'aujourd'hui, nous, on s'arrête là et qu'il y a un bus qui va passer derrière dans 5-10 minutes. Et malheureusement, c'est ce qui crée aussi des frictions. C'est que les gens aujourd'hui n'ont pas envie d'attendre 5-10 minutes supplémentaires à un bus pour qu'on les emmène dans un centre commercial ou dans une gare.
Dans quelques jours, votre nouveau patron Jean Castex va être intronisé. Il sera nommé président directeur général de la RATP. Vous avez envie de lui dire quoi ce midi dans Focus Dimanche ?
On a envie de lui souhaiter un bon courage parce que ça, entre guillemets, la personne qui était là avant lui, elle a complètement tué le dialogue social à la RATP. Au niveau de la politique managériale, voilà, la politique managériale à la RATP aujourd'hui, elle a fait qu'aujourd'hui on en est là.
Quand on vous écoute après cet échange, je peux vous dire qu'on est assez pessimiste, Bastien, pour notre système, pour notre RATP qui on vendait partout dans le monde des métros. C'est rattrapable ? On peut retrouver la force d'antan ?
Mais tout est rattrapable. Aujourd'hui, vous savez, dans 10 mois, on a le coup d'onde de rugby, dans 2 ans, on a des JO. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au pouvoir public de prendre conscience de ce qui va se passer.
Merci beaucoup, Bastien. Merci à vous. Merci d'avoir témoigné ce midi dans Focus Dimanche après ce jeudi noir que les franciliens ont connu. On espère que ça va s'améliorer dans le futur.
Après, nous, notre porte est ouverte à la RATP et à l'État d'agir.
Bon dimanche à vous, Bastien.
Merci, bon dimanche.
Merci à vous. Dans quelques secondes, Benjamin Pavard, l'international français, sera l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Mais avant ça, un autre Benjamin. Benjamin Laverne, qui interprète dans Les Engagés, qui sort mercredi prochain, un homme prêt à se mettre hors la loi pour accueillir un migrant, un film qui résonne avec l'actualité. Benjamin Lavergne est l'invité de Focus Dimanche dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est un film bouleversant, Les Engagés, qui sort mercredi 16 novembre. Un film inspiré d'une histoire vraie, celle d'un homme qui se met hors la loi pour accueillir des migrants en France. Les Engagés, un film déchirant, émouvant, où vous êtes brillant, Benjamin Lavergne. Bonjour, oh, Benjamin Lavergne.
Bonjour, merci. Non, merci de votre accueil.
Je le dis très sincèrement.
En plus, si c'est sincère.
J'ai été très touché par cet homme que vous jouez, qui est un homme normal et qui veut aider les autres simplement et qui est prêt à se mettre hors la loi pour l'humanité et pour des valeurs. J'ai bien résumé ?
Oui, tout à fait. Parce qu'on pense souvent que parfois, voilà, il y a des réseaux de passeurs qui sont des gens très organisés, des anarchistes qui veulent désobéir presque par principe, tromper les gendarmes. Là, il ne s'agit pas du tout de ça.
Racontez-nous l'histoire de David.
Oui, voilà, David est donc né à Briançon, qui est une région géographique très particulière à la frontière franco-italienne, qui est une ville qui est confrontée donc au passage d'exilés, de migrants, notamment dans cette zone très dangereuse. Pour l'homme hostile qu'est la montagne, un lieu de beauté mais aussi de danger. En revenant d'une randonnée avec sa compagne, qui a deux enfants d'une première relation, et qui est dans un litige pour la garde de ses enfants, qui est donc, elle a ce problème-là dans son intimité, il manque d'écraser un jeune exilé qui échappe à un contrôle de police.
Qui s'appelle Joko Jaillet,
qui vient de Guinée. Ce jeune est poursuivi par ses gendarmes, il y a des jappements de chiens, et il a un réflexe, une espèce de choses totalement innées, il le cache dans son coffre. Voilà. Donc il désobéit par instinct. Et il le ramène chez lui, il le rencontre, il découvre son parcours, il va le ramener au Refuge Solidaire, qui est une association et qui s'occupe d'accueillir, d'héberger ces migrants, malgré la lutte. Parce qu'en fait, c'est une poursuite. Ce film a été inspiré d'une jeune qui s'appelle Blessing, qui est morte noyée dans la Durance, oui. Donc dans le cours d'eau qui traverse Briançon. Et c'est ça qui a inspiré aussi notamment ce film à Émilie Frêche, la réalisatrice. Pourquoi dans notre pays, qui est un pays dont la devise liberté, égalité, fraternité, il faut qu'il y ait cette solidarité, cette fraternité en France, puisque c'est inscrit au fronton de notre devise républicaine. Et notre kiné de Briançon, David, lui, il va découvrir le parcours de ce migrant, et pour lui, ça va être une évidence qu'il faut y ouvrir sa porte.
Ça sachant va être que naturel chez lui.
Oui, c'est à 100 mètres, c'est à 200 mètres de chez lui, que certaines familles, certains enfants, parfois, souvent même, traversent à 2000 mètres d'altitude, à moins 20 degrés, au péril de leur vie, ces montagnes. Et pour que ces montagnes ne deviennent pas le nouveau cimetière comme la Méditerranée, David, il agit, il s'engage. Mais s'engager, c'est pas juste désobéir.
Ouais, bien sûr.
C'est héberger, accueillir, nourrir, soigner, aider potentiellement à des démarches administratives qui sont parfois très complexes. Et voilà.
On a l'impression de vivre un documentaire. La photographie de ce film avec ses scènes proches de Briançon, on voit ces images de montagnes et c'est haletant. On a le souffle coupé en découvrant l'histoire de Joko Jaillet. Cette histoire-là, elle est partagée par des centaines de personnes qui essayent de venir en France, qui essayent de rejoindre parfois les côtes en Angleterre. On imagine que ça vous touche particulièrement. Qu'est-ce que vous avez appris de ce rôle ?
En effet, c'est proche du documentaire parce que c'est un drame qui a lieu en ce moment. Ouais. On l'a tourné à Briançon et c'est très particulier de tourner une fiction dans une ville où le sujet principal a lieu au même moment. C'est un film qui est politique, mais dans le bon sens du terme, mais c'est aussi une histoire d'un drame de couple, puisque il est donc avec cette jeune femme, interprétée par Julia Piaton, et elle pourrait s'engager à ses côtés, sauf qu'elle a la garde de ses enfants, et elle est potentiellement
doutes.
En train de la perdre,
elle
cette garde. Ça raconte ça, comment notre bulle de l'intimité, de la famille, peut résister au bruit du monde, au danger du monde. Et ça m'a bouleversé, et je trouve que c'est la grande intelligence du film, c'est pas juste en faire un super-héros qui viendrait faire la leçon et aller défier les gendarmes, pas du tout. Puisqu'il y a aussi un portrait d'un gendarme dans ce film, c'est que le film n'est pas manichéen, justement. Il montre aussi ce que c'est que s'engager dans la police, pour son pays, pour les lois de la République, et à quel point parfois c'est complexe, quand des vies sont en jeu. Puisque le meilleur ami de David est gendarme, et lui, il est engagé dans la police. Et il dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que c'est pas difficile pour moi ? Et d'entendre son point de vue à lui, je trouve que ça participe totalement de l'intelligence de ce film.
Vous êtes sociétaire de la Comédie Française.
Oui.
Vous avez l'habitude de jouer des rôles assez complexes. Parfois névrosés, c'était le cas dans Le Sixième Enfant, où vous jouez un avocat qui veut recevoir, j'ai envie de dire, qui la femme va recevoir un enfant, et vous doutez, vous avez des questions. Là, vous jouez un homme magnifiquement bien dans Les Engagés, qui se lance dans un élan d'humanité pour accueillir cet immigré, ce Joko Jaillet. Là, vous jouez David qui a du courage, de la dignité. C'est important de s'engager quand on est comédien.
Bah, en fait, parfois, il y a le hasard fait bien les choses, puisqu'en effet, Encore une fois, moi je suis comédien avant tout. J'entendais Gilles Lelouch dans votre émission et j'étais assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que tant mieux si certains films sont des films à sujet, qui défendent des valeurs que je partage, puisque dans ce cas-là, je pense que mon interprétation est sans doute meilleure, puisque je m'y implique encore plus. J'essaye de rester à ma place quand ce sujet-là de désengagé me touche, mais me touche à mon endroit aussi, parce que je m'y reconnais. Je pense que je pourrais être ce David-là et agir localement, parce qu'il faut tendre la main à des gens qui sont en difficulté. Ça fait réfléchir, ça fait débat aussi. À la fin, on a été...
C'est important pour vous de faire débat ?
Ah bah...
De créer une réflexion à la sortie du film.
Bah oui, mais comme moi, en tant que citoyen même, je me dis, tiens, je rencontre les gens de ces villes-là, et parfois, il faut faire attention, j'ai l'impression que si le sujet passe trop devant le film et qu'on vous demande, par exemple, parfois dans des émissions, de dire oui pour ou contre, oui ou non, et on vous demande de prendre parti.
Ouais.
Alors que Léopold Legrand, quand il raconte un film sur un couple qui est prêt à potentiellement, on est encore une fois, acheter un enfant, enfin c'est complètement fou, mais en comprenant leur drame,
il y a des nuances.
Justement, on ne les juge pas. Et ça, je trouve ça justement fort. C'est là que pour moi est l'intelligence de ces films.
Et je me permets cette petite question, Benjamin. J'avais posé la même question à Gilles Lelouch. Quand on voit Les Engagés, je le répète, c'est un film bouleversant. Mais certains qui peuvent voir ce film peuvent se dire « Ah mais tiens, c'est encore des films sur les valeurs de l'humanité, l'accueil des migrants, etc. Encore un film, excusez-moi du terme, de bobo de gauche. » Mais ce ne sont pas des valeurs de bobo de gauche.
Mais tellement pas. Oui, mais justement, c'est-à-dire que c'est pas encore un film sur les migrants. Déjà, c'est une actualité terriblement actuelle. Ouais. Donc, c'est l'occasion de s'y intéresser. Parce que s'y intéresser, c'est même pas choisir, c'est pas faire un choix de pour ou contre, encore une fois. C'est de se dire, c'est une situation. Il y aura potentiellement 216 millions de déplacés climatiques dans les années à venir, selon la Banque mondiale. Je veux dire, donc, en fait, quelles que soient les valeurs, les religions, la couleur de peau, on est confronté à des déplacements migratoires croissants. Donc, l'intelligence de ce film, c'est qu'il n'est pas militant, il n'est pas partisan, c'est pas un film de droite, de gauche, d'extrême droite. C'est un film humain. Alors oui, en effet, c'est des valeurs humaines, de solidarité, mais qui montre ce que c'est que la vie de quelqu'un qui habite à Briançon et qui est confronté à ce drame dans ses montagnes.
Ouais.
Et qui est en couple. C'est ça qui était bouleversant. On a tourné à Briançon. Il y a des figurants qui ne connaissaient pas bien l'histoire du film. Et il me dit, mais c'est totalement la situation de beaucoup, beaucoup de couples à Briançon. Alors, je ne parle pas pour eux, mais il y a des couples qui se déchirent à cause de ça. Et c'est aussi... C'est pas possible de dire... Parce qu'on sauve la vie des gens, on risque d'aller en détention provisoire. Ça rend fou, quand même.
Merci beaucoup, Benjamin Nadal.
Merci à vous.
C'est un film formidable.
Merci.
Sort mercredi 16 novembre. Les Engagés, un film d'Emily Fraîche. Vous êtes fantastique dans ce rôle de David avec Julia Piaton, votre...
Et Youssouf Gueye qui joue le jeune exilé. Voilà, qui joue Joko Jaillé.
Et surtout, je le répète...
Catherine Yégel, Hakim Djemili.
Oui, ce n'est pas un film militant. Là, c'est un film qui ouvre le débat avec des questionnements, des doutes, des réflexions. Et surtout, à la fin...
C'est un film sur le milieu associatif aussi.
Et on pourra se faire sa propre opinion à la fin du film, Benjamin.
Je suis sûr que ça fera réfléchir tout le monde et vraiment dans le bon sens.
Benjamin, vous allez regarder la Coupe du Monde ?
Bah, je me pose encore la question.
Ah bon ?
Ouais, j'en sais rien.
Peut-être le boycott ?
Peut-être. Non, je sais pas, je suis pas très à l'aise avec cette question. En tout cas, je me dis, mais j'adore le foot. Je suis ahuri par les drames qui ont eu lieu là-bas au Qatar. Donc je suis encore en pleine réflexion, je suis un peu mal à l'aise. Je vais encore lire sur la question, mais non, c'est très très complexe.
Il vous reste une semaine, un peu plus d'une semaine pour faire votre choix, puisque France-Australie, ça sera le 22 novembre, le premier match de l'équipe de France. Et dans quelques secondes, on sera avec Benjamin Pavard.
Voilà. Ah, encore un Benjamin génial alors.
Oui, que des Benjamins géniaux aujourd'hui.
En toute modestie.
Oui, que des Benjamins géniaux aujourd'hui dans Focus.
J'ai pas encore eu ma chanson, lui et la sienne.
Bon,
je suis un peu jaloux.
On va la créer dans quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup Benjamin Laverne. Courez voir Les Engagés, c'est mercredi dans toutes les salles de cinéma. Et comme je le disais il y a quelques secondes avec Benjamin Laverne, un autre Benjamin génial, on a enfin 25 joueurs de l'équipe de France qui vont disputer la Coupe du Monde. Benjamin Pavard en fait partie, le joueur du Bayern Munich va disputer sa deuxième Coupe du Monde, le rêve pour un joueur de foot. Il est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche sur RTL dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Ça y est, nous avons enfin les 25 joueurs de l'équipe de France qui vont disputer la Coupe du Monde au Qatar dans quelques jours. Benjamin Pavard en fait partie, le joueur du Bayern Munich va disputer sa deuxième Coupe du Monde. Il est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche sur RTL. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Benjamin, écoutez cette voix, je crois que vous la connaissez très bien.
Défenseur Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Benjamin Pavard.
Bon ok Benjamin, c'est la deuxième Coupe du Monde, votre deuxième liste, mais qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où Didier Deschamps a prononcé votre nom ?
Beaucoup d'émotions, Comme à chaque liste, voilà, je la regarde en direct si j'ai l'opportunité. Voilà, c'est une deuxième Coupe du Monde, donc c'est encore plus d'émotion. Et forcément, je suis très, très heureux.
Vous étiez en famille à ce moment-là, Benjamin ?
J'étais avec des amis, avec mon agent aussi. Tout le monde ne pouvait pas être là parce que beaucoup de mes potes travaillaient. Mais j'ai pu partager ces émotions-là avec des amis.
La Coupe du Monde, c'est le Graal pour un joueur.
Pour moi, il n'y a pas mieux. Déjà, de porter ce maillot bleu, de chanter cette Marseillaise, de représenter son pays, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé en étant petit. Maintenant, je suis à 46 sélections, c'est ma deuxième Coupe du Monde. Donc forcément, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de travail aussi. Depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi avec mes parents. Donc cette récompense, c'est aussi pour eux. Et je suis content de porter ce maillot bleu.
Vous venez de le dire, Benjamin, 46 sélections, c'est votre deuxième Coupe du Monde. La première a été une joie pour toute la France. Il y a un changement dans l'état d'esprit quand on va disputer une deuxième Coupe du Monde ?
Non, c'est toujours la même excitation, toujours la même fierté et toujours l'envie d'aller au bout. Après, il y a 4 ans qui sont écoulés. Maintenant, j'espère revivre avec tous les Français et toute l'équipe les mêmes émotions. En tout cas, on va se donner à 100% pour espérer aller au bout.
J'imagine que ça doit être une énorme fierté pour deux autres personnes, pour Frédéric et Nathalie Pavard, vos parents.
Ça a été des sacrifices, mais des sacrifices payants à l'arrivée. Et je les en remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour moi, parce que si je suis là aujourd'hui, si j'arrive à atteindre mes rêves comme je suis en train de les atteindre, c'est en partie grâce à eux et à leurs sacrifices.
Vos deux parents, Benjamin, travaillaient à l'hôpital et votre mère, je crois, ne rigolait pas avec une chose, ce sont les devoirs, les études. Vous les faisiez même dans le vestiaire ?
On va dire qu'elle était au pressing avec les devoirs. Hein. Mais après, elle avait raison parce que l'école, c'était important. Après, parfois, c'est un peu difficile parce que t'as des rêves, t'as envie d'être footballeur professionnel. Ma mère, voilà, mettait un gros pressing à chaque fois qu'elle venait. C'est des bons moments, c'est des bons souvenirs que j'ai avec ma maman.
Souvent on se dit, ah, mais les footballeurs, ils ont une vie rêvée, ils ont des grosses voitures, ils ont des gros salaires, etc. Mais c'est aussi beaucoup de sacrifices dans sa jeunesse, c'est partir de la maison pour aller en centre de formation, on ne le voit pas. Et surtout, c'est beaucoup de candidats, mais peu d'élus.
Oui, c'est sûr. Après, je pense que voilà, si on a envie d'être footballeur professionnel, il faut s'en donner les moyens. Après, c'est un choix. Mes parents, peut-être qu'ils m'auraient dit non, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. En tout cas, ils ont accepté parce que c'était un de mes rêves. Et aujourd'hui, ça paye, donc c'est pas facile tous les jours, même encore maintenant. Moi qui vis en Allemagne, quand j'ai les anniversaires de mes parents ou de mes amis, bah, je suis pas là, ou j'ai des matchs. C'est sûr que c'est des sacrifices, mais après, je vais pas me plaindre. J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Je porte le maillot de l'équipe de France aussi. Je joue dans un très grand club. Donc là, j'ai pas à me plaindre.
En 2018, Benjamin, vous devenez une personnalité du football français avec un geste devenu mythique.
Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas.
Allez.
Second poteau, Pavard. Ouais.
Huitième de finale de la Coupe du Monde France-Argentine, la voix de Grégoire Margoton accompagnée de l'ancien champion du monde 98, Bichente Lizarazu, et cette demi-volée Pavard. J'ai les frissons, Benjamin, quand j'entends la voix de Grégoire Margoton encore.
Oui, c'est sûr, ça procure beaucoup d'émotions. Je pense qu'après ce but, on s'est senti un peu invincible et on a joué notre football et on a enchaîné les grosses performances.
Il a changé votre vie, ce but, Benjamin.
Oui, c'est sûr. Après, c'est des bons souvenirs. J'espère que, voilà, on ne sait jamais à cette Coupe du Monde, pourquoi pas en refaire une autre. En tout cas, je ne me mets pas de pression particulière. Mais le plus important, c'est l'équipe. Et on va tout faire pour être le plus performant possible.
Il n'a pas changé que votre vie, Benjamin, ce but. Vous savez que vous allez peut-être avoir une statue à Lourdes. Je ne sais pas si vous êtes croyant. Mais écoutez ce message, Benjamin. C'est la voix de Léa Moukanas. Elle était avec nous il y a quelques minutes. C'est la présidente de l'association AIDA qui vient en aide aux jeunes atteints de maladies graves dans les hôpitaux. Écoutez ce message de Léa Moukanas.
C'est un excellent parrain. Et il a commencé à s'engager avec nous autour d'une histoire un peu particulière, puisque quand il a marqué son but face à l'Argentine à la dernière Coupe du Monde, nous, on le regardait à l'hôpital. Et on a un jeune qui s'appelle Jordi, qui est en fauteuil roulant, qui s'est levé au moment où Benjamin Pavard a marqué son but incroyable. Et donc on a appelé ça le miracle Pavard. Et Benjamin est devenu parrain d'Aïda juste après ça. Donc je sais que Benjamin, tu m'entends et on te souhaite beaucoup de belles choses pour cette Coupe du Monde. On va te regarder depuis l'hôpital et on est à fond derrière toi.
Il existe vraiment le miracle Pavard, Benjamin ?
Bah, tant mieux si j'ai pu aider quelqu'un à... Voilà, comme tu as dit, si c'est là qu'il le dit, j'en profite pour lui passer d'ailleurs un message à elle et à l'association Aïda. Parce que franchement, elles font vraiment un travail exceptionnel. Et en tout cas, pour moi, ce sont eux les vrais champions.
Benjamin, l'essentiel, c'est de gagner dans la vie.
Oui, c'est vrai. Après, ce sont des souvenirs gravés à vie. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas regarder derrière. On a un tournoi à disputer, on veut tous aller au bout, donc on va se donner à 100%.
Il n'y a pas de Pogba, il n'y a pas de Kanté, il y a Benzema qui est en méforme, incertain, il y a Kimpembe qui est fatigué, Varane qui est un petit peu blessé. On a des doutes sur cette équipe de France, Benjamin. Et pourtant, vous y croyez, vous vous dites que cette équipe de France, elle est capable de se sublimer à chaque fois dans une grande compétition, comme c'est le cas pendant la Coupe du Monde.
On a de très grands joueurs. Après, forcément, il y a des blessés, parce qu'on n'est pas des machines. On enchaîne des matchs depuis septembre tous les trois jours. Donc c'est normal qu'il y ait des pépins physiques, mais ouais, nous on a confiance en nous, en notre football, aussi au coach. On va pas se poser de questions, on va se concentrer seulement sur nous et pour être le plus performant possible.
Benjamin, j'espère pouvoir remixer cette chanson. Benjamin, vous comme moi, on a écouté, je sais pas, 1300 fois cette chanson.
Minimum.
Non mais elle nous fait... Franchement, on aimerait envoyer un message à VG Dream, c'est qu'il nous crée la chanson Garder la coupe à la maison. On l'espère, l'équipe de France en est capable, Benjamin.
On en est capable, après ça dépend que de nous. Moi je pense qu'on a grandi depuis 4 ans aussi, ouais. On va pas se mettre de pression particulière, on va jouer notre football. Après c'est vrai que c'est un rêve pour tout joueur, tout français, pour tout le monde. Qu'on garde cette coupe à la maison.
Il y a des doutes sur l'équipe de France et c'est sans doute la première fois dans votre carrière de l'équipe de France de 46 sélections qu'il y a autant de doutes. Vous avez envie, excusez-moi pour cette petite expression que les auditeurs d'RTL ne voient pas cette phrase comme irrespectueuse, mais c'est une expression de vestiaire. Vous avez envie de fermer des bouches?
Non, mais après, c'est vous qui parlez, qui doutez. Nous, on ne doute pas de nous. Alors, on est sûr de notre force. On va juste se concentrer sur nous. Après, on n'est pas là à fermer forcément des bouches. On est sûr de nous. Après, forcément, il y aura des gens qui vont croire en nous et des gens qui ne croiront pas en nous. Mais nous, on se concentre juste sur le terrain. Et de toute façon, on verra. C'est sur le terrain que c'est le plus important et les résultats.
Moi, en tout cas, je crois en cette équipe de France et je suis sûr que les auditeurs de Focus Dimanche sur RTL croient en cette équipe de France. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi avec l'équipe de France. Faites-nous rêver. Et merci de m'avoir fait vibrer en 2018. Et j'espère que vous allez faire vibrer des millions de Français dans quelques jours.
Bah, j'espère aussi. Hein, et merci à vous. C'était vraiment très sympa. Et j'espère qu'on fera une autre interview avec une autre musique. Garder la coupe à la maison.
Promis, Benjamin?
Promis, si on gagne.
On se voit le 19 décembre. Merci beaucoup, j'espère. Benjamin Pavard. À bientôt. Merci. Bon dimanche. Et la Coupe du Monde, c'est à retrouver sur le podcast Focus tous les jours de la semaine à partir de demain avec Julien Cellier qui consacre un épisode à chaque Coupe du Monde qui a marqué les Français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Focus Dimanche sur RTL et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine chaque dimanche à 13h sur RTL et à réécouter sur l'application RTL. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec André Manoukian. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.